On va parler maintenant, ce qui est largement plus mon domaine, puisque je suis géologue, on va parler des satellites. Alors des satellites, il y en a des petits, des moyens et un gros. Des petits, on en connaît plus qu'une trentaine, on en découvre plein en ce moment, quasiment tous les 15 jours, il y a un nouveau satellite qui est découvert. Alors un nouveau satellite découvert, c'est des petits points, donc je ne peux pas en dire grand-chose. Il y a les moyens et les gros qu'on connaît depuis des siècles, on les voit au télescope. Alors là, leur nombre ne augmentera pas, il y a 6 moyens et un gros. Alors le but principal de la mission Cassini-Huygens, c'était le gros Titan. Il y a 40 survols prévus de Titan. Accessoirement, la NASA essaye, sans sacrifier Titan, de passer le plus souvent possible à côté des moyens. Par exemple, elle est passée 3 fois, elle passera une 4e fois à côté d'Encelade. C'est prévu. Elle n'est passée qu'une fois, elle ne passera qu'une fois à côté de Dione. C'est hélas prévu. Quant aux petits, ben, par hasard, des fois on passe à côté, tant mieux. Alors, je vais vous montrer tout ça. Mais avant de montrer tout ça, quelques belles images. Souvent, les physiciens, dans leur lycée, animent des clubs d'astronomes. Il y a des astronomes amateurs. Tout le monde connaît des belles photos. Alors, je vais vous montrer des photos à faire fantasmer les amateurs de photos astronomiques. Vous avez ici Mimas, sur fond de globe de Saturne, rayé par l'ombre de l'anneau C. Donc, le globe de Saturne, c'est des fausses couleurs. L'ombre de l'anneau C, là, vous auriez l'ombre de l'anneau B. Et Mimas devant. Alors vous savez tous ce que c'est que la lumière cendrée, ça se voit quand on a un fin croissant de lune, le soir ou le matin, on voit le croissant de lune et on voit le reste de la lune grisé, en lumière grise. C'est la lune éclairée par le clair de terre. Bien ici vous avez ce qu'on appelle la lumière cendrée. Voici un fin croissant de Jappé éclairé par le clair de Saturne. Donc la lumière cendrée sur Jappé. Là, c'est des rapprochements, j'ai mis à faire baver les amateurs de conjonction. Vous avez les anneaux Saturne presque vus par la tranche, et 3 satellites, Dione, Rhea et Encelade. Là, si vous aimez les éclipses, vous avez une éclipse ou une occultation, je ne sais pas quel terme il faut prendre, de Rhea par Dione, avec Dione qui passe devant Rhea. Mais suffisamment bien pour qu'on voit les cratères et les structures de ces 2 satellites. Donc, ça, c'était des images pour un peu saliver. Alors, les petits satellites, au télescope, on en connaissait 3. On en a découvert 8 nouveaux par voyageurs, ce qui en faisait 11 en tout. Voilà les 8 nouveaux découverts par voyageurs. Les photos de meilleure résolution ne sont quand même pas très excitantes. Il n'y a pas de quoi faire une thèse avec un machin comme ça. Alors, on vient d'en découvrir plus de 20 nouveaux petits et on va certainement découvrir d'autres. Alors, pour l'instant, Cassini n'en a survolé d'assez près que 4, Épiméthée, que vous avez ici, Hyperion, Pandore et Phébé. Et voici Épiméthée qui fait 116 km dans cette dimension. Je vous montre, il est joli, Hyperion, qui fait 328 par 260 par 214 km. Il est une densité de 0,607. Donc, si la glace est le constituant majoritaire, c'est qu'il a une structure spongieuse avec plein de vide à l'intérieur. Et voici 2 vues d'Hyperion. Alors, pour les physiciens, je signale qu'Hyperion est une exception dans le système solaire. Tous les satellites du système solaire ont une rotation sur eux-mêmes, synchronisée avec la révolution autour de leur planète. Si bien qu'ils montent tous toujours la même face à leur planète, comme la Lune, nous montre toujours la même face, la face visible. Hyperion est l'exception. Il a une rotation totalement, sur lui-même totalement chaotique. Sur plusieurs axes, il fait n'importe quoi. Et c'est le seul objet du système solaire avec une rotation sur lui-même chaotique. Là encore, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été capturé par les marées? Pourquoi cette révolution chaotique totalement irrégulière? Les physiciens peuvent s'en donner à cœur joie. Voici Pandore. Soit 84 km dans sa plus grande dimension. Et si je monte, et voici Phébé. Alors lui, il était survolé en 2004, donc jusqu'en Cassini arrivait. Voici Phébé vu par Voyageur. Voici Phébé vu par Cassini. Et ça, c'est encore Phébé vu de loin. Parce que Phébé vu de près montre des détails beaucoup plus importants. Par exemple, le géologue ici, dans ce cratère, voit la surface est noire, une couche blanche, une couche noire, une couche blanche, il y a des strates. Il y a donc un litage dans les couches internes de Phébé. Qu'est-ce que c'est que ce litage? Autre chose étonnante, il y a des coulées d'éboulis. J'ai beaucoup de mal à imaginer des traînées d'éboulis sur un corps dont la gravité est à peu près 10⁵ de la gravité terrestre. Ou 10⁵, je ne sais pas calculer. 10⁵, c'est pour le nouvel astéroïde. 10⁵, je pèserais 10 grammes là-dessus. Et pourtant, il y a des traînées d'éboulis, donc c'est étonnant. Ces traînées d'éboulis, comme si c'était la casse déserte au col Bizoar, avec sa gravité de 9,81. Là, c'est la gravité de 10⁴, et pourtant. Alors, là, la NASA était très riche, c'était le début. Maintenant, j'ai oublié encore une diapo. Voilà les quatre petits satellites qu'on connaît bien, que j'ai mis sur la même image, à la même échelle. Donc, les deux gros et les deux petits. Et vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas le même nombre de cratères en lieu de surface. Celui-là, énormément de cratères. Celui-là, on a beaucoup moins. Alors, si on suppose que les cratères, c'est dû à des impacts de météorites, astéroïdes ou comètes qui se baladent là-dedans, vas-y, comme je te pousse, globalement, ça sert à dater les surfaces. Une surface qui est très cratérisée, c'est qu'elle a reçu beaucoup de cratères, donc il y a longtemps qu'elle en reçoit, donc elle est vieille. Et une surface où il y a beaucoup moins de cratères, c'est qu'il n'y a pas longtemps qu'elle en reçoit, donc elle est moins vieille. Donc ça permet de faire une chronologie relative, non pas des objets, mais au moins des surfaces. Et ça, ça voudrait dire que ces quatre satellites n'ont une surface qui n'a pas le même âge. Alors une façon de faire ça, c'est prendre par exemple un gros, qui est vieux, de le casser en 1000 morceaux. Forcément, les morceaux du gros satellite auront une surface, s'ils viennent de l'intérieur, vierge, le cratère, et qui s'est fait recratériser depuis. Donc peut-être ce satellite est jeune, surface jeune, parce que c'est un morceau pris à l'intérieur, quelque chose de plus gros qui s'est fracturé. C'est une hypothèse, on pourrait peut-être en faire d'autres. Donc pourquoi cette différence de cratérisation? C'est un problème, je vous ai suggéré une hypothèse. Alors avec Phobe, la NASA, c'était le début des missions, le début de l'arrivée, a été très prolixe en données, et là ça serait une mine de problèmes pour vos élèves, alors ça dépend du programme. Avec l'infrarouge, on peut faire vraiment deux choses, mesurer des températures, en regardant autour de 15-20 microns, qui est le maximum d'émission d'un corps à moins 200 degrés, donc ça émet de l'infrarouge autour de 15-20 microns. Et en regardant la répartition de cette courbe du corps noir, on peut mesurer la température du corps. Alors voici donc Phobé en lumière visible, le voici l'intensité vers 15-20 microns, et on peut convertir ça en température. Et voici la température à la surface de Phobé. Il fait chaud quand c'est rouge, il fait froid quand c'est violet, c'est relatif, c'est 2 degrés K. Et vous voyez que globalement, quand on est au soleil, il fait froid, quand on est au soleil, il fait chaud, quand on est à l'ombre, il fait froid. Il y a un dégradé, c'est très sensible. Quand on est à l'ombre ici, parce qu'il y a un gros cratère, et bien c'est là qu'il fait le plus froid. Donc la relation entre l'ensoleillement et la température, si vous voulez faire la comparaison avec la Terre, est ici évidente. Alors autre chose qu'on peut faire avec les infrarouges, c'est pas autour de 15 microns, mais c'est autour de 5 microns, parce qu'autour de 5 microns, les solides ont beaucoup de raies d'absorption. Et il suffit de regarder, par exemple, si on prend la raie d'absorption de la glace carbonique, je ne sais pas la longueur d'onde de la raie d'absorption de la glace carbonique, si on regarde là où ça absorbe le plus, c'est là qu'il y a le plus de glace carbonique. Et on peut faire la carte de la répartition de la glace carbonique à la surface de Phobé. Alors, tous les modèles de fabrication de ces satellites nous expliquaient, avant l'année dernière, qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de glace carbonique sur ce satellite, ça devait être surtout de la glace d'eau et des hydrocarbures. Parce que CO, CO2, ça se fait quand il fait assez chaud dans le système solaire interne. Dans le système solaire externe, c'est se lié à l'hydrogène et non pas à l'oxygène. On va voir de la glace, des hydrocarbures. Trouver de la glace carbonique sur ce satellite est une énorme surprise. Alors sur ce, les hydrocarbures, ils en ont trouvé aussi, beaucoup. Ils ont trouvé également de l'oxyde ferrique, qui est ici en rouge, sur ça. Et ici, vous avez mis un mélange, vous avez l'oxyde de fer, la matière organique, non identifiée, je ne peux pas vous dire laquelle c'est, et la glace d'eau. Donc on peut faire une espèce de carte chimique de la surface des satellites. La NASA l'a publié que pour 2 ou 3 satellites, elle ne l'a pas publié pour tous, elle garde pour l'instant ces informations. Alors ça, c'est des petits satellites. On va parler des satellites moyens, qui font entre 400 et 1500 km de diamètre. Il y en a 6. Voyager les avait tous survolés de loin, et Cassini les a tous survolés de près, et va continuer à le faire pour 4 d'entre eux. Alors, avant de les regarder, ces satellites moyens, je vais vous demander de faire une conversion mentale. Vous êtes des terriens, vous habitez la Terre et vous pensez en terriens. Il va falloir maintenant penser en glaçons. Glacien, je ne sais pas comment faut dire. Voici la Terre, voici un satellite de glace. Qu'est-ce que c'est que cette conversion mentale? C'est que sur la Terre, il faut à peu près 15 degrés. Sur nos satellites de glace, à l'extérieur, il fait à peu près moins de 100 degrés. Donc ça change déjà beaucoup de choses. En particulier la glace qui, sur la Terre, est un solide visqueux, qui coule, les glaciers, ça coule. À moins de 100 degrés, la glace est aussi rigide que de la roche. La température de la Terre interne, c'est largement supérieure à 1000 degrés. La température interne de ces petits bazars, c'est moins que zéro. La surface de la Terre, c'est des cailloux. La surface de nos satellites, c'est des glaces. J'ai mis un S à glace parce que ce n'est pas forcément de la glace d'eau pure. Il peut y avoir un peu de la glace de méthane, de la glace d'ammoniac ou des choses comme ça. L'intérieur de la Terre, c'est des cailloux, c'est de la roche. L'intérieur de la Terre n'est pas fondu. Il n'y a pas de lave sous nos pieds, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. L'intérieur de la Terre, c'est du caillou solide. L'intérieur de ces satellites, c'est des glaces, solides aussi, a priori. Sur Terre, il y a des volcans. Quand il y a un volcan, c'est qu'il y a quelque chose de localisé dans l'espace et dans le temps qui fait fondre l'intérieur et il sort de la lave, qui est de la roche fondue. Eh bien, si on est au satellite, s'il sort de la lave, ça sera de l'intérieur fondu, c'est-à-dire de la glace fondue, c'est-à-dire de l'eau. Un volcan sur un satellite de glace crache de l'eau, comme un volcan sur un satellite de cailloux crache du caillou fondu. Donc, attention, quand je parlais de volcan, c'est crache de l'eau. Sur Terre, quand il y a des gaz volcaniques, c'est des gaz qui sont dissous dans le magma, dans la lave. Les principaux gaz volcaniques sur Terre, c'est la vapeur d'eau, c'est le gaz carbonique. Eh bien, dans nos volcans des satellites de glace, les gaz volcaniques qui seront dissous dans l'eau, ça sera du méthane ou des hydrocarbures. Sur la Terre, on a des liquides de surface, c'est la pluie, les rivières, les lacs, les mers. C'est liquide, c'est de l'eau liquide. Eh bien, sur nos satellites, s'il y a des liquides de surface qui peuvent faire des pluies, des rivières, des lacs ou des mers, ça sera du méthane, plus ou moins pollué par d'autres hydrocarbures. Il peut y avoir un peu d'éthane dissous dans le méthane liquide. Donc, quand on verra des lacs, ça sera des lacs de méthane. Quand on verra des volcans, ça sera des volcans d'eau. Donc, pensez à faire la conversion. Je ne le dirai pas à chaque fois. Mais pensez bien à changer de case à chaque fois qu'on est sur les satellites de glace. Alors là, c'est pour bien avancer. Voici un volcan terrestre. Bon, il y a de la lave, roche fondue, il y a des gaz volcaniques, c'est surtout de la vapeur d'eau. Voilà ce que pourrait être, on en a mis un volcan sur un satellite de glace. C'est de l'eau liquide qui sort, mélangée avec des bulles de méthane, blop, blop, là. Et j'ai mis une couleur marronasse, un peu comme les marées noires bretonnes, à cause de l'abondance en hydrocarbures. Donc voici une plage des satellites de glace. Alors voici les 6 satellites moyens vus par voyageurs. Il y a 2 gros moyens qui font à peu près 1500 km, 2 moyens moyens qui font 1000 km et 2 petits moyens qui font 500 km de diamètre. Ils ont été survolés une fois, trois fois. Et ceux qui ont un astérix vont être resurvolés une fois. Ceux qui n'ont pas d'astérix ne seront pas survolés de près. Donc ce que je vais vous montrer là, on n'aura rien de plus à vous montrer, si ce n'est les images traitées, des résultats d'analyse et tout ça, mais comme image brute, il n'y en aura pas, plus d'autres. Alors on va commencer par un gros moyen, Jappé. Alors Jappé, c'est celui-là. Voilà la meilleure photo voyageur. On ne voyait pas grand-chose, si ce n'est une chose très étonnante, une énorme tache noire que vous avez là. Ce n'est pas la limite jour-nuit, là, hein. C'est une tache noire. Donc quelque chose de très noir. Et cette quelque chose de très noir, voici une carte telle qu'on pouvait la faire avec les images voyageurs. La chose très noire, elle est là. Et là, une chose très surprenante, cette chose très noire, c'est qu'elle est parfaitement centrée sur l'équateur et parfaitement centrée sur le méridien 90. Et le méridien 90, Jappé tourne autour de Saturne avec toujours la même face vers Saturne, toujours la même face vers l'arrière. Et comme il tourne comme ça, il y a toujours une face qui est, disons, en avant du mouvement, comme la vitre avant d'une voiture, puis une face qui est en arrière du mouvement, comme la vitre arrière d'une voiture. Eh bien, le méridien 90, c'est le méridien qui est au milieu de la face avant. Et la tache noire est juste centrée sur l'équateur et le méridien au milieu de la tache avant. Comme si Jappé, en tournant, ramassait des poussières noires qui l'accumulent au milieu de sa face avant. C'est ce qu'on pensait que c'était avec les images voyageurs. Alors voilà une photo vue d'un peu près du satellite. Quand je dis qu'on est passé près, on est quand même passé qu'à 40 000 km. On est passé assez loin. Voici le blanc normal et voici la tache noire, la limite nord de la tache noire, la limite sud de la tache noire en bas. et en plein milieu de la tache noire, une ride. Une espèce de montagne qui est tellement importante qu'elle déforme le bord ici. Si on zoome sur cette ride que vous voyez ici, au milieu de la ride, il y a un fossé. Alors s'il y en a qui ont des notions de géologie, connaissent ce qu'on appelle les rides médio-océaniques, c'est des rides qui sont au milieu des océans, et il y a également un fossé au milieu. Donc ce machin-là ressemble beaucoup à une ride médio-océanique. Mais alors, mise à l'échelle terrestre, il faut multiplier par 7 ou 8 pour avoir la taille de la Terre. Cette ride est à 11 000 km de long, ça c'est pas un problème, la ride terrestre à 60 000 km de long. Cette ride aurait 160 km de large, les rides terrestres sont un peu plus larges, mais cette ride aurait 100 km de haut. Les rides terrestres n'ont que 2000 mètres de haut, 2 km de haut. Donc j'ai mis les rides océaniques sont battues à plate couture. Et cette ride océanique est parfaitement au milieu de la tache noire. Là, c'est une photo vue très loin, vous avez le blanc normal, et la tache noire. Et la ride est là, en plein milieu. Et si on regarde, la ride est là, la limite entre le blanc normal et le noir, on a l'impression de voir des vagues alignements, comme ça, là, vous voyez, comme s'il y avait du vent qui avait soufflé du noir en sortant de la ride. Il y a des alignements qui sont comme ça. Comme si cette ride avait émis des produits volcaniques, et que ces produits volcaniques sombres, donc sans doute riches en hydrocarbures, avaient sali tout autour d'eux, en haut et en bas, avec ces limites qui montrent ces espèces de linéaments, linéation, due à une espèce de vitesse d'écoulement de gaz volcanique. Il n'y a pas d'atmosphère sur Jappé, la gravité est beaucoup trop faible, donc ce n'est pas du vent au sens météorologique du terme. Si vent il y a, c'est parce qu'il y a eu des émissions comme ça. C'est totalement incompréhensible, parce que si c'est un phénomène volcanique, pourquoi est-il juste au milieu de la face avant? Est-ce un hasard? C'est un peu gros comme hasard. Donc là, il y a un problème qui n'est pas résolu. En attendant quelques beaux paysages sur Jappé, vous avez ici un grand cratère, un plus petit cratère de météorite, et ici, sur cette falaise qui fait quand même 9000 mètres de haut, donc plus haute que l'Himalaya, un gigantesque glissement de terrain, un slumping, qui fait quand même 60 km de flèche. Donc s'il y avait des gens qui habitaient là, il faut aller habiter assez loin de la falaise pour éviter les contre-coups des éboulements. Alors, Jappé a été également, c'est le premier satellite survolé avec Phobos, bien étudié au point de vue chimique, et surtout la NASA a publié. Alors voici des raies d'absorption. Quand c'est blanc, ça veut dire qu'il y a de l'absorption intense, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cette matière. Là, il y a beaucoup de glace d'eau. Là, il y a beaucoup d'hydrocarbures lourds. Et là, la NASA a fait une espèce de combiné, on va regarder simplement ça. Globalement, quand c'est rouge, c'est qu'il y a beaucoup de matière organique. Quand c'est vert, c'est qu'il y a beaucoup de glace carbonique. Et quand c'est bleu, c'est qu'il y a beaucoup de glace d'eau. Là encore, il y a une répartition de la chimie de surface qui est étrange. Et la tache noire, qui est ici la tache rouge, c'est de la matière organique qui serait sortie par cette espèce de volcan extrêmement allongé que serait la ride. Notez bien le conditionnel que j'emploie à chaque fois.
Quelle heure il est?
Plus qu'une heure. Alors, Réa, c'est l'autre gros moyen, puisqu'on a deux gros moyens. Alors, ces images ont été faites samedi dernier. Elles sont arrivées sur le web hier. Alors, c'est des images brutes. Celle-là, c'est même moi qui l'ai un petit peu coloré en jaune pour faire plus joli. Vous avez Réa sur fond des anneaux. Alors, les images sont brutes, j'aurai aucun commentaire. Je vais vous montrer quelques images de Réa. Il n'y a pas grand chose à en dire, mais j'attends avec impatience des images traitées, où j'ai l'échelle et tout ça. Là, j'ai que des images brutes, parce que c'était un des chapitres de ma thèse d'État, Réa. J'aimerais bien voir ce qu'on voit. En particulier, les images qu'il donne, elles ne sont même pas localisées sur une carte. On sait qu'il y a des images de Réa, mais elles sont arrivées hier sur le web. Je ne sais même pas si elles sont près du pôle Nord, près du pôle Sud. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Alors, on s'approche de Réa, vu de plus près. Géologiquement, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a que des cratères. Voilà. Encore plus près, des cratères. Voici une photo de vue de très très près. On est qu'à 500 km au-dessus de Réa. Vous avez la surface ondulée avec tous ces cratères, tous ces petits cratères. Il faut attendre les images traitées, mosaïquées. Je ne sais pas si le terme mosaïqué est français, mais c'est faire mosaïque. Parce que si vous regardez ces images, il y a plein de petits points blancs, et ce n'est pas des étoiles, c'est ce que j'appelle des caca NASA. C'est des défauts de transmission des images. C'est des problèmes. Là, on a eu un problème de transmission que la NASA, en général, rectifie très bien. Mais là, c'est les images brutes que la NASA met à disposition du public sur le web le lendemain de l'arrivée. C'est extraordinaire. Leur devise, c'est argent public, données publiques. Si la science française, l'ESA, la science européenne, pouvait faire ça, argent public, données publiques, qu'est-ce que ça serait bien. Alors, on va tout de suite passer à Tétis, qui est un peu plus intéressant, et surtout que ces images ont été prises il y a un mois à peu près, donc la NASA a fait des mosaïques, etc. C'est plus facile de faire des choses qu'avec ces images brutes arrivées hier, alors que j'avais des cours à préparer, donc je n'ai pas le temps de les regarder. Voici donc des images de Tétis, qui fait à peu près 1000 km de diamètre, vues de plus en plus proche. Il y a sur Tétis un énorme cratère qu'on ne voit pas encore ici. Et là, il y en a deux moyens. Un des moyens est souligné par la flèche bleue. Le moyen souligné par la flèche bleue est ici. Et là apparaît un énorme cratère qu'on appelle Odyssée, que vous avez ici vu presque de face. Au point de vue taille relative entre le corps Tétis et son cratère, c'est un des records du système solaire. Le cratère fait plus du tiers du diamètre du satellite. La météorite qui a fait ça aurait été un peu plus grosse, elle aurait cassé le satellite. Alors, au point de vue géologique, sur Tétis, il y a une chose très, très curieuse, c'est qu'il y a une espèce de canyon que vous voyez ici, qu'on va voir plus près tout à l'heure. Canyon tectonique qui est limité par des failles, donc qui couvre plus du tiers d'un demi-cercle, plus du tiers d'un méridien, c'est absolument colossal. Et voici un détail de ce faisceau de vallées, de ce canyon. Et ce que vous pouvez noter, c'est que ce canyon, il y a plein de cratères de météorites au fond, sur les flancs. Ça veut dire, a priori, qu'il y a longtemps que ce canyon s'est fait, plusieurs milliards d'années, et que depuis longtemps, ça ne bouge plus, d'où les nombreux cratères qui perforent ce canyon. Si j'insiste à ça, c'est parce qu'on va voir le satellite suivant, où ça sera exactement l'inverse. Alors, le satellite suivant, justement, c'est Dione, qui a la même taille que Tétis, 1000 km de diamètre, que vous avez ici devant le globe saturnien. C'est très joli. S'il y a des habitants sur Dione, il peut y avoir de très jolis ciels le soir, avec un gros Saturne. On s'approche, voici Dione, Saturne, les anneaux presque vus par la tranche, l'ombre des anneaux, vous avez l'habitude maintenant, sur Saturne. On s'approche toujours de Dione et on commence à voir ces canyons limités par des failles. On s'approche et vous avez tout ce faisceau de failles. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Et on s'approche, je ne vous dis pas, le géologue, il se régale quand ces photos sont arrivées tous les matins, une nouvelle. Ah, c'est beau. Donc vous avez toutes ces failles et vous voyez que là, les failles coupent les cratères. Les cratères sont déformés par les failles. On peut regarder encore sur celle-là. Vous avez toutes ces failles qui recoupent les cratères. Regardez tous ces cratères, donc, qui sont coupés par les failles. Ça veut dire que par rapport au bombardement catastrophique qui a fait tous ces cratères, il y a autant de cratères à peu près sur Dione que sur Tétis. Donc ils ont la même histoire de cratérisation. Mais sur Tétis, les mouvements, les failles, les canyons se sont faits avant la fin de ce bombardement. Sur Dione, ça s'est fait après la fin de ce bombardement. Pourquoi cette différence, alors que les deux satellites ont la même taille, la même masse, la même densité, c'est vraiment les mêmes? Eh bien non, ce ne sont pas les mêmes. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Là encore. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, j'aurais du mal à vous le dire, parce que je dis au revoir, Dione. Autant Jappé et Tétis, Cassini repassera à côté. Là, Dione, c'est fini. La mécanique céleste étant ce qu'elle est, l'orbite de Cassini étant ce qu'elle est, aucun prochain rendez-vous n'est programmé. Sauf si la NASA, en 2008, la sonde sera en fin de mission nominale. Alors, il faut que tout marche, ça c'est pas un problème, sauf si. Il faut qu'elle ait encore de l'énergie pour faire marcher ses appareils, alors ça c'est pas vraiment un problème, parce qu'il y a un petit réacteur nucléaire à l'intérieur qui va donner de l'énergie sur au moins 20 ans. Il faut qu'elle ait encore du carburant pour ses éventuelles corrections de trajectoire. Et là, la trajectoire n'étant pas prévue, si on veut une trajectoire qui passe à côté de plusieurs satellites, il faudra donner un bon coup d'accélérateur ou de ralentisseur. Donc, il faudra modifier la trajectoire. Donc, il faut du carburant. Et puis, il faut des crédits de la NASA. Parce que ça coûte cher d'écouter pendant 4 ans d'affilée un satellite, de traiter les données. Or, le budget de la NASA est voté tous les ans par le Congrès. Et donc, les Américains sont coutumiers du fait de commencer des choses et de les arrêter en cours de route. Le plus bel exemple, c'est les Américains qui ont voulu faire dans le désert du Texas un accélérateur de particules plus grand que celui du CERN. Celui du CERN fait 30 km de circonférence. Les Américains en ont commencé un qui devait faire 80 km de circonférence, donc beaucoup plus énergétique. Ils ont fait déjà un quart de tour, donc 20 km, un quart de cercle de 20 km, à 150 ou 200 mètres de profondeur dans le sol. Et ils ont coupé les crédits, ils ont arrêté. Ils ont fait la champignonnière la plus chère du monde, puisqu'un tunnel quart de cercle de 20 km de profondeur à 200 mètres dans le sol. Donc, le CNRS, on n'est pas encore là. Mais on dit souvent qu'on copie les Américains avec du retard. Donc, au revoir Dionnet. A priori, on ne le reverra plus. Alors, Mimas, un petit moyen. N'oublie pas qu'il y a les gros moyens, les moyens moyens, les petits moyens. Un petit moyen. J'ai marqué ici côté pile. Il fait 500 km de diamètre. J'ai dit ici côté pile. Pourquoi côté pile? Parce qu'il y a un côté face. Côté face à un énorme cratère qu'on appelle Herschel. Et là encore, la taille relative entre le cratère et le satellite est assez confortable. C'est un peu plus petit que pour Tétis, mais enfin quand même. Alors là, la NASA a publié un résultat, c'est des fausses couleurs, c'est pas une analyse géochimique, mais qui donne une idée de la composition chimique. Quand c'est violet, c'est que c'est pas la même réflectance suivant les bandes spectrales que quand c'est vert. Et on voit que la tache violette est autour du cratère Herschel, mais n'est pas symétrique. Donc, il y a ça peut être débris sortis de Herschel, mais qui sont mis plus d'un côté, peut-être plus de l'autre, mais ils sont mis plus ici que là. Pourquoi est-ce que les débris, si ce sont les débris, ne sont pas symétriques? J'ai mis un point d'interrogation. Je ne peux pas vous dire. Et voici Herschel au niveau du Terminator, la limite jour-nuit. Herschel est complètement plongé dans la nuit, sauf le piton central qui est là, qui est éclairé. Et j'ai mis, regardez bien également Mimas, aucun autre rendez-vous proche n'est programmé. On reverra Mimas de loin, mais aucun rendez-vous proche n'est programmé. Et voici mon préféré. Le plus beau, le plus époustouflant, c'est Encelade, qui est un petit moyen, comme Mimas, qui fait 500 km de diamètre, c'est tout petit. Et là, c'est une photo prise le 14 juillet 2005, pendant l'approche du troisième survol. J'ai mis ici une photo satellite de l'Europe du Nord, avec l'Angleterre, et Encelade, pour que vous voyez la taille relative. C'est vraiment tout petit. Hein. Alors, normalement, ce qui fait qu'un satellite est actif, c'est parce qu'il a de la chaleur à l'intérieur, provoquée, on va dire, par la radioactivité. Chaleur qui est évacuée par des mouvements de convection à l'état solide, et c'est pour ça que sur la Terre, les plaques et les continents bougent. Et la source d'énergie est proportionnelle à la masse du corps. Plus il est gros, plus il y a de sources d'énergie, plus il y a d'énergie produite. Et quand je dis la masse du corps, il faut prendre la masse des silicates du corps. Parce que l'uranium, le thorium, le potassium, les sources radioactives sont dans les silicates, ils ne sont pas dans la glace. Un satellite comme Encelade, qui a une densité de 1,2, grosso modo, en volume, c'est 15% de silicates pour 85% de glace. Donc, dans un machin comme ça, il n'y a pas beaucoup de silicates à l'intérieur, 15% en volume. Alors, c'est petit, et d'autre part, l'énergie qui est produite, elle s'évacue par la surface. Et le rapport surface sur volume est très favorable à la surface quand on est petit. Plus on est petit, plus le rapport surface sur volume est grand. Donc, un corps comme ça ne produit pas beaucoup d'énergie, et comme la surface est grande, elle l'évacue très bien. Donc, la température d'équilibre des corps est d'autant plus forte que le satellite est gros. C'est pour ça qu'une grosse planète comme la Terre est encore vivante, avec des volcans, des tremblements de terre et tout ça, et qu'une petite planète comme la Lune est morte, géologiquement parlant, parce que, bien qu'il y a autant d'énergie qui se produit à l'intérieur de la Terre que de la Lune, par unité de volume, la température d'équilibre est beaucoup plus faible sur la Lune, la chaleur s'évacuant bien mieux par la surface de la Lune, qui est relativement grande par rapport au volume. Donc un corps qui est tout petit, 500 km de diamètre, et qui contient que 15% de silicates, potentiellement source radioactive, ça devrait être une boule de glace sans aucune activité. Alors déjà tout à l'heure, on a vu Jappé avec une ride bizarre, mais Jappé fait 1500 km. On a vu Tétis et Dionne avec des canyons récents sur Dionnet. Enfin, Dionnet fait quand même 1000 km de diamètre, ça fait déjà juste, mais bon, là c'est 500 km de diamètre, c'est vraiment petit. Et rien qu'à cette photo, vous voyez ici, il y a beaucoup de cratères, on a l'habitude. Cette surface est vieille. Mais ici, il n'y a pas un cratère. Alors les cratères, ça tombe de façon aléatoire. Ce n'est pas Dieu qui vise cette région avec sa mitrailleuse. Il a dû tomber autant de cratères ici que là. Si ici, il n'y en a pas, c'est qu'il y a quelque chose qui les a effacés. Et c'est quelque chose, c'est une activité géologique qui qui les a effacés. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a des choses spéciales, il y a des rayures, des choses comme ça. Donc, on va voir ce satellite parfaitement extraordinaire. Alors, ça, c'est des images du premier survol, février 2005. Une image rapprochée, j'ai marqué quel satellite. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La meilleure image qu'on peut voir, c'est des traces de pistes de ski dans une poudreuse au bout d'à peu près une heure d'ouverture des pistes. Voilà, ça, c'est le dernier skieur qui est passé. C'est de la folie. Il y a des mouvements, c'est évident qu'il y a des mouvements, mais d'une complètement désordonnée, c'est le bazar. Alors, si on regarde de près, on voit des surfaces pleines de cratères, c'est vieux. Presque pas de cratères, c'est jeune. Donc là, il y a, par exemple, de la lave qui a recouvert ces terrains-là. Et les cratères qu'il y avait sont ensevelis sous la lave, maintenant solides. Quand je parle lave, n'oubliez pas, c'est de l'eau. Alors, ce que j'appelle Grand Rift, c'est une espèce de canyon très très net qui se termine avec une terminaison en fleurs, ça les géologues connaissent. Mais ce rift est beau. Le rift africain, relativement parlant, n'a qu'à bien se tenir. Et si on regarde la terminaison en fleurs, on voit donc des fractures béantes, ouvertes. Mais vers le bout, ces fractures ont l'air de se continuer par une chaîne de petits cratères. Vous voyez, comme des petits cratères alignés. On y reviendra. Comme si on avait tiré à la mitraillette et que chaque petit cratère, c'était un impact de balle, paf, 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 plus ou moins jointif. Alors, si vous aimez les failles, voilà de la faille. Peut-être une des plus belles failles du système solaire, parfaitement rectiligne, etc., etc. Alors, non seulement on trouve des failles, mais on trouve ce que je vais appeler des plis, des rides. Ça, c'est des bosses. C'est un pli qui ressemble à ça. Donc, quand on fait des plis sur Terre ou ailleurs, c'est a priori qu'on raccourcit. Donc là, on voit toute une série de plis qui indiquent qu'on aurait raccourci la surface. Et si on regarde en détail ces plis, on voit que souvent, au sommet du pli, là, il y a une fracture. Alors là, le géologue ou le physicien peut savoir que quand on fait ça, il y a augmentation du rayon de courbure, acquisition d'une convexité, donc il y a augmentation de la longueur à l'extérieur et diminution à l'intérieur. Donc, quand on augmente la longueur, il y a extension, donc il peut y avoir des fractures. Alors, sur Terre, c'est très connu. Je mets une mini-analogie terrestre. Vous avez ici une banquise. Sous la banquise, il y a des mouvements de l'eau. C'est pas très épais, la banquise. Et il y a pendant ce qu'on appelle des rides de pression, pressure ridge en anglais. On plisse et on fait donc cette espèce de pli, comme ça. Et il y a une fracture qui se fait à l'extrado du pli. Les personnages vous donnent l'échelle. Il peut y avoir la même chose sur un lac de lave. Alors, il n'y a pas de personnage qui donne l'échelle, mais c'est à peu près la même taille. Vous avez un lac de lave, encore liquide, sous nos pieds. Il y a une surface de basalte solide de 1 ou 2 mètres d'épaisseur. Dessous, c'est liquide. Et cette banquise de lave, comme ici la banquise de glace, peut subir ce même genre de pli, et ça fait le même genre de pressure ridge. Peut-être que ça, c'est la même chose sur Encelade. Ce qui suggérerait que dessous, il y a un niveau liquide, tout au moins très peu visqueux, bien pâteux, qui fait des mouvements lents et qui plisse la surface. Ça, c'est d'autant plus confirmé qu'on voit des figures comme celle-là qui ressemblent à des figures d'écoulement visqueux. Alors, vous voyez ces figures d'écoulement visqueux, il faut une quarantaine de kilomètres de large. Hein. On peut comparer ça avec des figures d'écoulement visqueux sur la Terre. Alors, quand on parle d'écoulement visqueux sur la Terre, on pense glacier, bien entendu. Voici une photo vue verticale ou vue oblique. L'échelle vous est donnée 40 km, c'est à peu près la même que sur Encelade, d'un glacier en Alaska. Et vous voyez ces figures d'écoulement visqueux dues au glacier. On peut faire la même chose avec des coulées de lave. Une lave peut être très liquide, mais elle peut être très pâteuse. Et quand la lave est très pâteuse, alors voici une coulée de lave aux Canaries, la lave très pâteuse, elle fait 75 mètres de large, vous avez la peau un peu plus solide que l'intérieur pâteux, la peau du dessus est plissée par l'écoulement du dessous pâteux. Et vous avez ces structures plissées, comme ça, d'écoulement visqueux. Ça, c'est à échelle moyenne, 75 mètres. Ça peut être à plus petite échelle. Voici là l'échelle 75 cm, avec un iguane marin qui vous donne l'échelle. Donc, cette photo est prise au Galapagos. Vous voyez, les géologues font toujours des vacances extraordinaires. Vous avez la surface d'une coulée de lave plissée par l'écoulement de la lave encore liquide sous-jacent. On a envie de dire que peut-être il s'est passé quelque chose comme ça sur Encelade. Alors, sur un slide, j'ai dit qu'on voyait des fois des puits alignés. Alors, ici, on voit très bien une série de trous alignés, comme vraiment si on avait donné un coup de mitraillette. Alors, ça, c'est des trous. Là, c'est des taches noires alignées. Ce n'est pas des trous, mais simplement des taches noires. Alors, une tache noire, a priori, ça serait un dépôt, un geyser d'hydrocarbures. Pas un volcan, mais un geyser d'hydrocarbures. Volcan, c'est quand il sort de l'eau. Geyser, c'est quand il sort d'hydrocarbures. Comme sur la Terre, volcan, quand il sort de lave, geyser, quand il sort de l'eau. Il faut tout baisser d'un cran sur nos satellites de glace. Donc, ça pourrait être des geysers d'hydrocarbures, donc des espèces de machins volcaniques, entre guillemets, et ça, des volcans. Alors, je vous donne des analogies terrestres. C'est fréquent que geysers ou volcans s'alignent sur des failles. Je vous montre ici des volcans alignés sur une faille en Islande. Je vous montre ici des cratères de soutirage. La genèse est complexe aussi, mais alignés sur une faille en Islande. Peut-être que ce truc-là sont des volcans, des cratères volcaniques et des geysers d'hydrocarbures alignés sur des failles. Alors ça, c'était le premier passage, février 2005. Deuxième passage, mars 2005. Alors j'ai mis quelques images simplement pour se rincer l'œil. Regardez si c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Là, vous avez un cratère, regardez, il fait des ronds dans l'eau, comme si on jetait quelque chose dans quelque chose de mou, un pruneau dans de la crème. Vous imaginez? Et les vaguelettes, les ondulations sont figées. N'oubliez pas qu'il fait moins de 200 degrés à l'extérieur. Hein. Alors, publication de mars 2005 dans le web, le magnétomètre de Cassini a mesuré en passant une déviation des lignes du champ magnétique dû à Saturne. Et la seule façon, paraît-il, pour dévier les lignes de champ comme ça, c'est de mettre une atmosphère autour d'Encelade, de l'ioniser un petit peu. Et cette atmosphère ionisée, donc conductrice de l'électricité, dévierait les lignes de champ. Alors cette hypothèse est tellement bizarre, c'est que s'il y a une atmosphère maintenue avec une gravité aussi faible, la vitesse de libération sur un corps comme ça, c'est quelques mètres, j'aimerais mètres secondes, ou même mètres heures, je ne sais pas, je n'ai pas calculé la vitesse de libération, mais c'est rien du tout. Vous êtes sur Encelade, vous ne pouvez pas jouer au tennis parce que la balle part, hein. Donc, la vitesse de libération est extrêmement faible. S'il y a une atmosphère autour d'Encelade et qu'elle n'est pas partie, c'est qu'elle est produite en direct. Alors, c'est tellement, par exemple, pour être produite par du volcanisme. Pour voir ça de plus près, le troisième survol qui était prévu et qui a eu lieu le 14 juillet a été dévié. Donc, ils ont consommé une grosse partie de carburant. Et au lieu de passer à 1000 km comme c'était prévu, il est passé à 150 km. Il a fait du rasmot pour voir de plus près ce satellite extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Donc, il a vu cette image que j'ai déjà montrée tout à l'heure, des régions vieilles et des régions jeunes. Là, c'est à peu près le pôle sud. Donc, le pôle sud, il n'y a pas un cratère, c'est tout jeune. Et dans ce pôle sud, il y a ces espèces de grandes rayures, d'une glace un peu plus bleue, que les Américains ont appelées des rayures de tigre. Enfin, en anglais, évidemment. Donc, vous avez ici des rayures de tigre. Il y a quatre belles rayures de tigre ici. Alors, le survol a eu lieu au-dessus du pôle sud, et on va zoomer cette région-là. Donc, voici photo, le pôle nord, le pôle sud, on va zoomer le carré vert. Et vous voyez ça avec ici des superbes rayures de tigre. Le carré vert, vous le retrouvez là. Et on va zoomer sur le rectangle rose que vous avez là. Le rectangle rose, vous l'avez là. Et on va zoomer sur le rectangle bleu qui fait à peu près 2 km de diamètre. C'est largement plus petit que la commune de Lyon. Et voici ce qu'on voit. Ne me demandez pas d'expliquer ce qu'on voit. Les blocs, là, ont des tailles de gros HLM, de grosses maisons. C'est à peu près la taille de l'ENS, voilà. Vous avez un champ d'ENS dans ce carré. On ne voit pas les normaliens, quand même. C'est ça. Donc, les gros blocs de glace entre 10 et 15, 100 mètres de côté. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'origine? Alors, il a pris des photos de plus près. Mais elles sont toutes floues, parce que la vitesse relative était tellement importante, le soleil est loin, donc faut quand même, il y a une pause assez longue, et les photos vues de plus près sont totalement floues à cause du déplacé de la sonde. C'était prévu d'ailleurs, hein. Ça serait illusoire de passer plus près. Alors, Encelade, Cassini a mesuré la température d'Encelade. Quand elle est passée, le soleil est au zénith ici, et c'est là qu'il aurait dû faire le plus chaud. Voici un modèle tout à fait théorique de la répartition de température qu'on aurait dû avoir le plus chaud au zénith et de plus en plus froid quand on s'éloigne du zénith. Alors le plus chaud, hein, c'est une histoire de parler, c'est quelque chose comme moins 195 degrés. Et voici la répartition observée des températures. Ce n'est absolument pas là qui fait le plus chaud, c'est au pôle sud, là où il y a les rayures de Tigre. Et vraiment, vraiment chaud, hein. Il fait moins 190 degrés en moyenne, alors que l'ambiance générale, c'est du moins 200, moins 210. Donc, il y a quasiment 20 degrés de plus que par là. Qu'est-ce qui provoque cette bouffée de chaleur à cet endroit-là? Et cette bouffée de chaleur, comment elle est répartie? Toujours avec son détecteur infrarouge, voici la taille des pixels infrarouges, Cygni a pu faire un profil. Voici le profil publié. Ça, c'est la température moyenne de chaque carré, en degrés K. Et quand est-ce qu'on se réchauffe? C'est quand on passe au-dessus des rayures de Tigre. Donc, il y a une source de chaleur au niveau des rayures de Tigre. Alors, une source de chaleur, c'est soit parce qu'il sort de l'eau chaude, enfin, fluide chaud, soit parce qu'il est sorti quelque chose de chaud il n'y a pas longtemps et qu'il n'y a pas eu le temps de refroidir. Pas longtemps, ça se chiffre en quelques années. Voire, c'est quelque chose de chaud qui sort en ce moment. Mais ça, c'était une surprise assez extraordinaire. Alors, autre chose, quand il sort de l'eau, mettons qu'il sorte de l'eau, elle gèle et ça fait de la glace. La glace, c'est celui de cristalliser. À moins de 100 degrés, avec un bombardement de photons ultraviolets, en surface, très rapidement, la glace devient amorphe. Elle passe du système cristallisé classique à la glace amorphe, ce qui n'a pas du tout la même réflectivité en infrarouge. Et cette amorphisation, ça se chiffre en quelques... L'unité, c'est l'année. En quelques années, peut-être quelques dizaines d'années tout au plus, la glace s'amorphise. Ici, ce qui est gris, c'est de la glace amorphe. Ce qui est bleu, c'est de la glace encore cristallisée. Grosso modo, ce qui est bleu ici, c'est de la glace qui est plus jeune que moi, pour simplifier. C'est donc vraiment quelque chose de jeune, même à l'échelle humaine, ce truc-là. Il y a donc un volcanisme actif qui crache de l'eau liquide ou de la vapeur d'eau qui se condense en givre au niveau de ces rayures de Tigre. Alors, y a-t-il vraiment une atmosphère au-dessus de Encelade? Alors, une des méthodes pour savoir s'il y a une atmosphère, c'est le principe des occultations d'étoiles. Vous avez un mouvement relatif entre la sonde, le satellite Encelade et une étoile située à l'infini. Alors, dans ce dessin, on suppose que c'est l'étoile qui bouge, mais en fait, évidemment, l'étoile ne bouge pas. Il y a eu une occultation d'étoiles qui avait été faite en février 2005. L'étoile lambda du Scorpion passait derrière la sonde et la lumière de l'étoile s'éteignait brusquement. C'était ce qui était parfaitement attendu. On passe derrière, ça s'éteint brusquement. Là, en juillet 2006, ils ont bien calculé leur coup, leur trajectoire exacte. Quand on calcule une trajectoire, c'est non seulement passer à une distance, mais ils ont dit, on va regarder l'étoile Bellatrix, et l'occultation s'est faite au niveau du pôle sud. Et là, la luminosité de l'étoile a diminué progressivement. Ce qui montre qu'au niveau du pôle sud, il y a une atmosphère, au niveau de l'équateur, il n'y en a pas. L'atmosphère est produite au niveau du pôle sud. Or, c'est le pôle sud qui est chaud. L'atmosphère est produite là où c'est chaud. Donc, tout colle. C'est extraordinaire. Sur ce, il faut faire sortir de l'eau, de la vapeur d'eau, dans un tout petit satellite. Il ne devrait pas y avoir d'énergie produite. Il fait moins de 100 degrés. Alors, il y a deux choses qu'il faut faire. On peut abaisser la température de fusion ou on peut fournir de l'énergie. Alors, pour fournir de l'énergie, le chauffage radioactif, c'est largement insuffisant. On va voir tout à l'heure qu'on peut faire un chauffage avec les marées, qui est marqué ici. Et on peut abaisser la température de fusion, et le corps qui abaisse le mieux la température de fusion de la glace, c'est l'ammoniac, où, avec de l'ammoniac, on peut abaisser la température de fusion jusqu'à moins 103. Je vous montre ici un eutectique eau 100%, ammoniac 100%, et vous avez donc une courbe de fusion eutectique, et le plus bas point de fusion, c'est moins 103 degrés, qui correspond à peu près à 30% d'ammoniac. Donc si, par exemple, dans la glace, au départ, vous avez 10% d'ammoniac, si vous montez la température à moins 103 degrés, vous produisez une première goutte de liquide qui est à moins 103 degrés, mais dont la composition chimique n'est pas les 10% d'ammoniac du départ, mais 30% d'ammoniac, anothectique, et 70% d'eau. Donc peut-être que c'est quelque chose comme ça. Alors là, l'échelle n'est pas respectée. Vous avez le noyau qui fait 15% du volume. L'eau, eh bien, si vous mettez un chauffage et de l'ammoniac, ben vous pouvez rendre liquide, ils ont appelé ça slurry, ce qui signifie bouillie en anglais. Donc là, c'est de la glace fondante, une bouillie cristalline, qui serait à 170 K, moins 103 degrés Celsius, et de temps en temps, il y aurait des volcans où ils sortiraient de l'eau ammoniaquée, et qui en arrivant en surface, jaillit et se sublimerait. Donc, on peut abaisser la température de fusion mondiale de l'ammoniac, et puis il faut quand même fournir de l'énergie. Alors, pour fournir de l'énergie, on peut prendre les marées. Alors, quand on fait les calculs théoriques, il n'y en a pas assez, mais il y en a quand même un peu. Alors, les marées, imaginez, voilà Saturne, on est en vue polaire, les anneaux de Saturne. Voici Encelade. Encelade est déformée par les marées, et Encelade a une forme elliptique. J'ai mis une montagne sur Encelade, c'est un repère topographique. Encelade fait un tour sur lui-même, pendant qu'il fait un tour autour de Saturne. Donc la montagne que j'ai mis en face de Saturne est toujours en face de Saturne. Donc il y a pas, y a une face rouge, une face bleue, et la face bleue est toujours bleue, la face rouge est toujours rouge. Et il n'y a pas de mouvement relatif entre le bourrelet des marées et le globe de Saturne, de Encelade. Donc il n'y a pas de mouvement relatif, donc il n'y a pas de friction, donc pas de dégagement d'énergie. Alors le problème, le premier problème, c'est que cette petite Encelade tourne sur une orbite qui est elliptique et pas parfaitement circulaire. Donc la distance Saturne-Encelade varie. Quand Saturne et Encelade sont proches, les forces de marée sont grandes et Encelade est très déformée. Quand Encelade est loin, les forces de marée sont plus petites et Encelade est moins déformée. Donc on a déjà le globe de Encelade qui s'étire et qui se raccourcit, comme ça. Ça, ça fait des sources de friction. Mais il y a autre chose, c'est que ici, en vertu des lois de Kepler, vous allez plus vite que là. La révolution a une vie autour de Saturne a une vitesse variable. Par contre, la rotation sur lui-même a une vitesse constante. Si bien que la rotation de l'ensemble peut prendre de l'avance ou du retard sur le bourrelet. Le bourrelet est plus ou moins toujours dirigé vers Saturne, alors que la rotation, qui se fait à une vitesse régulière, alors que le bourrelet ne se propage pas à une vitesse régulière, est donc un déphasage. Alors, je me trompe. Et grosso modo, voilà ce qui arrive au satellite. Non seulement la taille du bourrelet varie, mais il peut osciller sur lui-même, relativement par rapport à la montagne fixe, et ça, ça fait de la friction qui dégage de la chaleur. Alors, quand on fait tous les calculs théoriques, en donnant les forces de marée qu'il faut, les coefficients de friction interne qu'il faut, tout, on arrivait, par exemple, très bien à fondre l'intérieur de Io, qui est un satellite de Jupiter, et faire du volcanisme sur Io. Ça a même été prédit et publié 3 jours avant que Voyager découvre les volcans actifs sur Io. Le patron, c'est un thésard qui a fait ça, qui a fait ses calculs. Le patron avait le bras très, 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 très long. Il a réussi à faire publier dans Science ou dans Nature, je ne sais pas quoi, un texte disant « il y a peut-être du volcanisme récent sur Io » pour que ça sorte 3 jours avant le passage. Là, on n'avait absolument pas prévu ça. Et quand on fait les calculs, c'est à peine suffisant. On met la radioactivité, on met les marées, c'est à peine suffisant. Et pourtant, c'est tout jeune. Alors ça, c'était un machin que j'avais fait il y a quelques jours pour vous. Et j'avais mis « on s'éloigne de ce monde extraordinaire. Attendons d'éventuels résultats sur la composition de cette atmosphère. » Et j'ai mis vivement le prochain survol, le 12 mars 2008. Mais hier, il y a eu des nouvelles. Donc les dernières nouvelles d'Encelade. Je vous montre une image prise de loin et à contre-jour, ce dimanche 27, et mise sur le web, donc hier. On était très loin et c'est à contre-jour. Et voilà ce qu'on voit. C'est moi qui ai rajouté pôle nord et pôle sud. Donc on voit le globe d'Encelade parfaitement noir, un très fin croissant d'Encelade. Et comme on est à contre-jour, ce qu'on voit, c'est la lumière diffusée. Et ce qui diffuse la lumière, c'est les très fines particules. Et ce qu'on voit, c'est au-dessus du pôle sud, des jets de très fines particules. Il y a des volcans qui crachent. Avec de l'eau, évidemment. Alors, est-ce que c'est des volcans qui crachent de façon active ou est-ce que c'est des flaques d'eau vite gelées qui se subliment? Je ne saurais vous le dire. Encore que ça a l'air assez localisé, les crachats, vous voyez, ça ne crache pas de partout, il y a des bouches émissives. On a vraiment l'impression qu'il y a des volcans actifs sur Io. C'est un résultat d'hier, hein, je ne peux pas trop vous en dire plus, mais c'est quand même extraordinaire de voir ce satellite. Alors, je remets mon image, là. Attendons d'éventuels résultats et vivement le prochain survol. Mais là, la photo a été prise, il survolait Rhea, mais il y avait Encelade, par hasard, qui était juste quasiment en opposition par rapport avec le Soleil. Et la NASA en a profité.